Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Lecture dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Marc, chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? » Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever, en lui saisissant la main, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. « Sois pur !» Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu.
Lorsque nous voulons lire un message crypté, nous avons besoin de la clé de lecture. L'Esprit-Saint nous fournit la clé de lecture qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. C'est donc en comptant sur l'aide du Saint-Esprit que ce matin nous allons chercher à comprendre le message d'une portion de la Bible, un livre fiable et éprouvé par le temps. Nous sommes aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, qui est en fait le journal de Pierre, le témoin oculaire direct à qui le Saint-Esprit rappelle tout cela avec exactitude. Alors c'est un journal que l'on pourrait dire de très moderne, dans le sens qu'il est rempli de petits articles relativement courts qui décrivent l'un ou l'autre aspect de la vie et du ministère et de l'enseignement de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble six courts articles qui permettent à Pierre de nous présenter six aspects du ministère de Jésus qui seront chacun un appel à venir à lui. Alors le titre de cette prédication est « Six aspects du ministère de Jésus, P-A-E-G-P-P ». P-A-E-G-P-P. Alors c'est un code pour nous aider à retenir ces six aspects. P-A-E-G-P-P. Jésus prêche, Jésus appelle, Jésus enseigne avec autorité, Jésus guérit, Jésus prie et Jésus purifie. P-A-E-G-P-P. Ce sont nos six points. Alors commençons par le premier. Jésus prêche. Et je vous invite à relire les versets 14 et 15 qui nous indiquent le contenu de l'article qui parle de la prédication de Jésus. Alors Marc 1, verset 14. Alors gardez vos Bibles ouvertes dans l'Évangile selon Marc. Au chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors à ce moment-là, Jésus avait déjà fait le miracle à Cana, il avait déjà purifié le temple une première fois, il avait déjà dit à la Samaritaine qu'il était le Christ et avait guéri le fils d'un officier royal. Alors lorsque Jésus apprend que Jean est arrêté par Hérode, il se retire dans la Galilée et c'est là que nous le retrouvons. Jésus n'a pas commencé à prêcher à ce moment-là, mais Pierre choisit ce moment-là pour en parler. Et le texte dit bien, hein, il prêchait, pas il commença à prêcher. La prédication de Jésus est présente tout au long de son ministère. Et le verset 38 le souligne lorsqu'il dit à ses disciples qu'il veut aller ailleurs afin que j'y prêche aussi. Et au verset suivant, il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues. Afin que nous comprenions bien quelle était la prédication de Jésus, je suis convaincu qu'il a été fait exprès dans Marc que les premières paroles de Jésus résument et condense la prédication de toute sa vie. Regardez au verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu, c'est que son royaume, libéré de tout péché, reflétant parfaitement sa personne et son caractère, est proche. Et la réaction à avoir, la repentance et la foi. Et la prédication de Jésus n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui en 2020, car ce qui est vrai le restera toujours. En attendant la manifestation du royaume de Dieu, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors la prédication de Jésus n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui en 2020, car ce qui est vrai le restera toujours. En attendant la manifestation du royaume de Dieu, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais pourquoi la repentance et la foi sont-elles les deux facettes de la réaction à avoir lors de l'annonce du royaume de Dieu?
Eh bien, parce que premièrement, on ne plaisante pas avec la justice de Dieu. Si Dieu vient manifester son autorité, son pouvoir et sa sainteté, cette lumière va montrer toutes les parties de notre personne, même celles que nous cachons à quiconque voudrait y pénétrer. Notre orgueil, qui nous fait croire que nous sommes meilleurs que ceux que l'on considère comme pires que nous, notre égoïsme, qui va même jusqu'à faire des actes généreux pour tirer un avantage non exprimé, notre incrédulité, qui se base bien souvent sur notre propre perception comme étant seule digne de foi, sans parler de tous les autres péchés qui en découlent, tout cela sera mis en lumière. Il vaut donc mieux avouer son péché, le regretter, s'en détourner de toutes nos forces avant que cette lumière du royaume de Dieu qui sera révélée éclaire tout cela. Car alors, il sera trop tard pour avouer, regretter et s'en détourner. Ce seront simplement des charges contre celui qui ne s'est pas repenti avant. Et deuxièmement, regretter ne suffit pas. Je suis sûr que si quelqu'un vous a volé 10 000 francs et qu'il avoue sa faute, regrette, s'en détourne, cela ne vous suffira pas, sauf si les 10 000 francs vous sont rendus. C'est ça la foi, c'est amener celui qui peut payer à notre place, c'est placer notre confiance en celui qui a tout accompli pour nous sauver des conséquences du juste jugement qui pèse sur nous à cause de nos fautes et qu'il a pris sur lui à notre place. C'est faire confiance à celui qui appelle, qui enseigne, qui guérit, qui prie et qui purifie. Et là, j'ai une question importante. Avez-vous déjà regretté vos péchés? Attention, pas simplement regretter les conséquences, hein, comme le voleur qui regrette son vol parce qu'il s'est fait attraper et qu'il doit rembourser et payer une amende. Non, avez-vous déjà regretté le vol lui-même? Avez-vous déjà, après ce regret et recherché à vous en détourner, mis votre confiance en celui qui peut effacer cette faute? C'est en demandant pardon à Dieu pour ses péchés et en croyant que Jésus a payé le prix pour nous en délivrer que nous répondons à la prédication de Jésus qui n'a pas changé. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, qui est la délivrance de la tyrannie du péché et l'entrée dans le royaume de Dieu assuré. Si Jésus prêche, il appelle également. Et c'est le sujet de l'article suivant dans le journal de Pierre. Regardez avec moi dans Marc 1, les versets 16 à 20. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils le suivirent. Jésus se trouve au bord de la mer de Galilée où il y a de grandes entreprises de pêche. Alors c'était pas juste quelques hommes avec leur canne à pêche au bord du lac, hein, mais des entreprises qui exportaient leurs poissons dans tout Israël et même plus loin. Les pêcheurs étaient des travailleurs avec une bonne condition physique pour lancer et retirer leurs filets, et ils devaient être persévérants et organisés. Ils connaissaient la négociation pour vendre leurs poissons dans diverses régions. Ainsi, plusieurs personnes dans l'entreprise devaient connaître le latin, le grec, et peut-être encore d'autres langues en dehors de l'araméen et de l'hébreu qu'ils parlaient habituellement. Ils avaient même des points de vente jusqu'à Jérusalem. Simon-Pierre et André, son frère, ainsi que Jacques et Jean, leurs associés, avaient une telle entreprise. Ce qui explique bien des choses lorsque nous lisons les Évangiles et tout le Nouveau Testament. Et Jésus s'approche d'eux. Alors, il n'aurait été pas inconnu. et il leur parle dans un langage illustré qu'ils peuvent comprendre. Il leur dit ceci, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Trois parties dans cet appel. Hein. « Suivez-moi », la première, une phrase qu'ils avaient déjà dû dire et entendre des centaines de fois en allant sur le bateau, hein. « Suivez-moi !» ou en allant livrer leurs poissons, le premier appelant les autres à venir, hein, « Suivez-moi !» Ce n'est pas une simple invitation, c'est un ordre. Deuxièmement, « Je vous ferai !» Jésus indique que c'est lui qui répond de tout. Il est le patron de l'entreprise dans laquelle il appelle ses hommes. Et plus encore, comme ils vont continuer à le découvrir, Jésus est le patron de la création entière. Et troisième partie de cet appel, suivez-moi, première partie, je vous ferai, deuxième partie, troisième partie, pêcheur d'homme. Alors le terme pêcheur leur était connu, mais pêcheur d'homme, cela devait être étrange pour eux. Par contre, ils comprenaient fort bien l'image qui indiquait un travail dur où il faut sortir par tous les temps, travailler en équipe pour ramener ce qui était pêché dans l'entreprise et compter sur Dieu. Simon, que Jésus nommera Pierre, André, Jacques et Jean, répondent en laissant leur filet, en laissant leur équipe de travail pour suivre Jésus. Comme lorsqu'un des leurs leur demandait de venir dans la barque ou aller livrer les poissons, ils ne leur viennaient pas à l'idée de ne pas suivre ceux qui les appelaient, comme ici ils ne leur viendraient pas à l'idée de ne pas suivre Jésus qui les appelle si clairement. As-tu déjà entendu ce genre d'appel de Jésus-Christ disant « Suis-moi » et tu n'as pas d'autre idée que de le suivre? As-tu déjà entendu ce genre d'appel de Jésus-Christ disant « Suis-moi » et tu n'as pas d'autre idée que de le suivre? Ouais, les disciples se sont parfois demandé s'ils avaient fait le bon choix, c'est vrai. Ils n'ont pas abandonné leur famille, mais ils ont répondu à l'appel de Jésus en le suivant. C'est désormais lui, leur patron. Alors si tu as déjà entendu cet appel et que tu suis ce bon maître, mais réjouis-toi parce qu'il ne veut que ton bien. Et si tu n'as pas répondu à cet appel, qui est ton maître? Si Jésus prêche un message encore actuel, il appelle encore aujourd'hui également. Et s'il appelle, il enseigne également. C'est le sujet de l'article suivant du journal de Pierre, guidé par l'Esprit Saint. Lisez avec moi dans Marc 1, les versets 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité ?» Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Les gens entendaient Jésus leur parler de la Torah de manière si vivante et si pertinente que cela leur donnait vraiment l'impression qu'il en était l'auteur. Les gens entendaient Jésus leur parler de la Torah de manière si vivante et si pertinente que cela leur donnait vraiment l'impression qu'il en était l'auteur. Ils étaient surpris, non pas que Jésus se rende à la synagogue, car il avait l'habitude de le faire, mais parce que son enseignement est accompagné d'autorité. Non pas une autorité tyrannique, mais une autorité d'amour, de vérité et de libération. Alors que Jésus enseigne, un esprit impur qui connaît le monde invisible, cet esprit témoigne de la divinité de Jésus. Mais Jésus ne veut pas de ce témoignage de démon, et il lui ordonne de se taire, ce qu'il fait, parce que Jésus a pleine autorité sur lui. De plus, Jésus ordonne de sortir de l'homme qu'il possède. L'obéissance est immédiate. Cela prouve que Jésus est Dieu. Les gens du coin sont saisis de stupeur et d'étonnement, car ils ne savent pas vraiment qui est Jésus. Les démons sont saisis d'épouvante et d'horreur, car ils savent qui est vraiment Jésus. Notez que chaque fois, ils crient devant Jésus. En fait, c'est simplement parce qu'ils sont terrifiés. Les gens dans la synagogue à qui Jésus enseigne sont appelés à la repentance et à la foi pour être sauvés. Ils ont la possibilité de se tourner vers ce Sauveur, mais beaucoup ne veulent pas le reconnaître. Les démons n'ont aucun moyen pour être sauvés. Ils le savent et connaissent leur condamnation. La vue du Christ annonce leur jugement inéluctable dans l'étang de feu éternel, et ils en sont terrifiés. Ceux qui entendent l'appel à la repentance et n'en veulent pas ne sont pas dans une meilleure situation que les démons. Ceux qui entendent l'appel à la repentance et n'en veulent pas ne sont pas dans une meilleure situation que les démons. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, l'enseignement de Jésus, qui a toute autorité et qui a été consigné dans la Bible, si vous entendez sa voix, qui vous dit que vous avez péché, que vous méritez le jugement, cette voix qui vous dit aussi que Jésus-Christ est justement venu pour vous libérer de ce démon, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne remettez pas à plus tard, mais répondez à cette voix par une prière de repentance et de foi, par une capitulation de vouloir vivre selon vos propres critères. Et la joie de recevoir un si grand salut, un si grand réconfort de celui qui enseigne avec autorité, qui commande même aux esprits et lui obéissent. Si vous avez répondu à sa voix, sachez que son enseignement, sa parole, est comme une épée qui chasse tous les démons. Nous sommes rassurés qu'il a toute autorité. Si Jésus prêche, appelle, enseigne avec autorité, un quatrième aspect de son ministère est la guérison. Et Pierre, dans son prochain article, nous partage une expérience qu'il a vécue dans sa propre famille. Il s'appelait alors Simon. La maman de son épouse, Pierre était marié, la maman de son épouse a été guérie par le Seigneur. Lisons ensemble Marc 1, les versets 29 à 34. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Cette guérison nous permet de regarder ensemble à 6 réalités des guérisons de Jésus. 6 réalités des guérisons de Jésus, et je dois l'inspiration de cette liste à John MacArthur. Alors premièrement, Jésus guérit par un mot ou un geste. Jésus guérit par un mot ou un geste. Ici, il touche la belle-mère de Pierre. Juste avant, il avait parlé courtement au démon. Ça n'a rien à voir avec de longues répétitions d'incantations ou des séances rituelles. Jésus guérit par un mot ou un geste. Deuxièmement, Jésus guérit instantanément. Jésus guérit instantanément. La fièvre quitte la belle-mère de Simon au moment même. Il n'y a pas de délai. Elle ne s'est pas simplement sentie mieux et petit à petit elle a guéri. Non, Jésus guérit instantanément. Troisièmement, Jésus guérit complètement. Jésus guérit complètement. La belle-mère de Pierre était atteinte d'une fièvre dont on peut mourir ou si l'on s'en relève, il faut quelque temps pour retrouver ses forces. Plusieurs qui ont été malades ces derniers temps se rendent compte qu'il faut du temps. Eh bien, quand Jésus l'a guérie, elle est directement au service. Il n'y a plus de traces de maladie. Jésus guérit complètement. Quatrième réalité des guérisons de Jésus, Jésus guérit tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il n'est pas question de la foi de la belle-mère de Pierre ici, mais uniquement de la volonté de Jésus qui n'est pas dépendant de celui qu'il guérit. Jésus guérit qui il veut. Cinquième aspect, Jésus guérit toutes les maladies. Jésus guérit toutes les maladies. Celle de la belle-mère de Pierre n'est pas décrite très clairement, il y a juste le terme fièvre où Luc le médecin va préciser qu'elle est violente ou que c'est une méga fièvre, c'est le terme mégas qui est utilisé ici dans Luc. Alors cela ne semble pas bénin. Et en bien des circonstances, Jésus a guéri toutes sortes de maladies, des aveugles, des lépreux, des estropiés. Jésus guérit toutes les maladies. Et dernière réalité des guérisons de Jésus, Jésus ressuscite des morts. Jésus ressuscite des morts. Alors, c'est vrai que nous ne le voyons pas ici avec la belle-mère de Pierre, mais l'indiqué nous permet de comprendre la puissance de guérison de Jésus. Jésus ressuscite des morts. Personne ne peut guérir comme lui. Sinon, ceux qui prétendent le pouvoir devraient être accusés de non-assistance de personnes en souffrance, car ils vont pas vider les hôpitaux en guérissant tous les malades. Et personne ne vide les morgues en ressuscitant les morts. Dieu seul guérit de la manière démontrée par Jésus. Instantanément, complètement, sans aucun effet secondaire négatif, Jésus est Dieu et ses miracles manifestent l'approbation du Père. En fait, Dieu a aussi manifesté son approbation de la loi qu'il a transmise par Moïse par des miracles. On voit Moïse qui fait des miracles lors des 10 plaies d'Égypte. Dieu a aussi approuvé ses prophètes, particulièrement les deux figures de proue, Élie et Élisée, par des miracles. Et Dieu a approuvé le Nouveau Testament qu'il a transmis aux apôtres qui ont fait des miracles. Mais à la différence de Jésus, ils ne pouvaient pas en faire de façon illimitée et selon leur propre volonté. Une courte phrase résume la conséquence du miracle, la guérison de la belle-mère de Pierre. Elle se mit à les servir. En dehors du fait qu'elle était en pleine forme, elle sert. Jésus guérit pour servir et pas pour prendre des vacances. Jésus guérit pour servir et pas pour prendre des vacances, pour prendre du temps pour soi après tout ce temps de souffrance. La belle-mère de Pierre manifeste que son cœur a également été guéri. La santé retrouvée manifeste ce qu'il y a dans son cœur. En fait, ce que nous faisons lorsque nous sommes en santé manifeste ce qu'il y a dans notre cœur. Il suffit d'analyser ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait cette semaine pour savoir ce qui guide votre cœur. Car l'arbre ne peut pas renier son fruit. Si lorsque nous avons du temps et que nous sommes en bonne santé et que nous ne cherchons pas à être actifs pour notre Seigneur et Sauveur, est-il vraiment dans notre cœur? Dans ce temps particulier du coronavirus, j'entends parfois qu'il faut occuper le temps. Mais ne faudrait-il pas plutôt choisir ou investir le temps? La belle-mère de Pierre ne pouvait pas aller elle-même vers Jésus, mais d'autres ont parlé d'elle au Seigneur. Quelle joie de pouvoir être un transmetteur de besoins à celui qui peut y répondre. Jésus prêche, appelle, enseigne et guérit. Il est notre assurance d'une guérison certaine, soit ici-bas pour le servir encore, soit pour l'éternité, pour lui rendre gloire. Et Pierre, par le prochain article, veut nous montrer encore un autre aspect du ministère de Jésus. Jésus prie. Lisez avec moi les versets 35 à 39 de Marc 1. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher, et quand ils l'eurent trouvé, lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Jésus, dans toute son autorité et sa puissance, prend du temps dans la prière. Mais pourquoi? Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce pour nous montrer un exemple? Alors Jésus, en tant qu'homme, a les mêmes besoins que nous, et le maître qui prie est un exemple pour ses disciples. Quelqu'un disait d'ailleurs que la prière, c'est le pouls du cœur de notre vie chrétienne. Celui qui ne prie pas n'a pas de pouls. Quelqu'un disait d'ailleurs que la prière, c'est le pouls du cœur de notre vie chrétienne. Celui qui ne prie pas n'a pas de pouls. Mais à mon avis, nous passons à côté de l'essentiel si nous en restons là. En fait, Jésus prie parce que cela fait partie de son ministère et de notre assurance. Il continue à le faire encore maintenant. Jésus prie parce que cela fait partie de son ministère et de notre assurance. Et il continue à le faire maintenant. Jésus prie pour ses disciples. Et c'est notre assurance dans la tentation. Rappelez-vous lorsqu'il avertit Pierre de son reniement et lui dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Jésus prie pour tous ceux qui viendront à lui. Jean 17 nous permet d'entrer dans l'intimité des prières de Jésus. Jésus a prié jusque sur la croix et il continue d'intercéder pour nous maintenant. Jean nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et cet avocat, il plaide pour nous. Oui, Jésus nous motive à prendre du temps dans la prière. C'est le pouls, le souffle de notre vie chrétienne. Et plus important encore, il prie pour ceux qu'il a rachetés. Est-ce que Jésus prie pour toi? Si c'est le cas, quelle assurance! Alors, si Jésus, P-A-E-G-P, alors, prêche, appelle, enseigne, guérit et prie, Pierre, avec le dernier petit article que nous allons voir ensemble, nous montre que Jésus purifie. Lisez avec moi les versets 40 à 46. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. La lèpre est une maladie terrible, qui écarte le malade de la société, qui le rend impur, qui lui enlève la sensation de la douleur, il peut être défiguré. En fait, une maladie où l'on est mis en quarantaine, mais à vie pour la lèpre, qui génère la peur. Cela vous dit quelque chose dans ce contexte de coronavirus? Le lépreux était banni et devait vivre dans des lieux déserts. Il ne pouvait pas entrer ouvertement dans une ville. Or, la lèpre présente si bien le péché qui écarte, qui rend impur, qui enlève toute indication de douleur, alors que des membres sont abîmés ou même coupés. La lèpre représente si bien le péché qui écarte, qui rend impur, qui enlève toute indication de douleur, alors que des membres sont abîmés ou même coupés. le lépreux maudit et impur, vient vers Jésus, le parfaitement pur et béni de Dieu. Il vient avec une question. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il reconnaît le pouvoir de Jésus-Christ. Il ne le questionne pas sur ce point, mais sur sa volonté de purifier. Et là, Jésus fait un geste inimaginable. Il touche ce pestiféré, cet homme de qui il ne faut pas s'approcher. Ce geste s'apparente à le prendre dans ses bras comme le dit une chanson. Et au lieu de rendre Jésus impur, c'est l'homme qui est rendu pur. Il est instantanément purifié. Jésus renvoie ensuite cet homme afin qu'il suive la loi de Moïse qui demandait que le lépreux guéri se montre au sacrificateur. Jésus demande à cet homme d'obéir à la loi, ce qui permettait un témoignage auprès des responsables spirituels du peuple. C'était aussi un test d'obéissance pour le lépreux guéri, afin de voir s'il tenait plus à celui qui l'a guéri qu'à la santé retrouvée. Malheureusement, par la désobéissance de cet homme, Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans une ville, et il devait se tenir dans les lieux déserts. La malédiction qui pesait sur le lépreux rejeté est tombée sur Jésus. Ça nous rappelle ce texte de Galates 3, 13, qui nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Jésus a purifié et pris la malédiction de ce lépreux. Lorsque l'on comprend que la lèpre peut représenter le péché, quelle image saisissante. Suivons l'exemple du lépreux malade et non pas du lépreux guéri. Le corps guéri ne change pas le cœur. Nous désirons un cœur purifié de la lèpre du péché. Le corps guéri ne change pas le cœur. Nous désirons un cœur purifié de la lèpre du péché. Jésus, a-t-il enlevé ta lèpre? Es-tu venu à lui en reconnaissant sa puissance? Après la purification, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Faire ce que ton bienfaiteur te demande ou aller contre ses paroles et proclamer partout ta pureté? Ce matin, nous avons vu 6 aspects du ministère de Jésus. Le code pour s'en souvenir est P-A-E-G-P-P. P-A-E-G-P-P. Prêcher, appeler, enseigner, guérir, prier, purifier. Jésus n'a arrêté aucun de ses ministères jusqu'à aujourd'hui. Saisis-tu sa prédication? Entends-tu son appel? Reconnais-tu son enseignement avec autorité? Es-tu guéri? Prie-t-il pour toi et te purifie-t-il? Pierre, guidé par le Saint-Esprit, a transmis ces 6 articles à Marc pour que nous sachions que nous devons nous repentir et croire, que nous devons suivre le Maître, le reconnaître pas seulement comme un Dieu, mais notre Dieu, servir avec les forces qu'il nous donne, être rassuré par la prière de notre avocat et nous réjouir de la purification de celui qui a pris sur lui notre malédiction. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est un privilège de pouvoir nous rappeler, nous souvenir ces différents aspects du ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour son message si clair de repentance et de foi. Merci pour cette grâce de savoir qu'il enseigne avec autorité. Merci parce qu'il nous appelle. Oh, merci notre Seigneur et notre Dieu parce que il guérit encore aujourd'hui, cœur brisé. Il purifie. Il intercède pour nous. Oh Seigneur, merci pour ces promesses si fabuleuses qui nous poussent à te louer et t'adorer. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.